France Musique.
Les camps des Tziganes. En vertu d'une décision de Himmler du 16 décembre 1942, 20 000 à 23 000 Tziganes sont déportés à Auschwitz à partir de février 1943. En 1945, moins de 2 000 survivent au typhus, à la faim, aux chambres à gaz et aux expérimentations médicales du docteur Mengele. Contrairement aux Juifs et aux autres déportés, les Tziganes ne subissent pas la sélection à l'arrivée et vivent en famille, en conservant leurs instruments de musique. Rasés et tatoués d'un Z pour Zigeuner à l'arrivée, Tziganes, Bohémiens, Roms, Gitans, Manouches sont les Zigeuner. Une population nomade, inassimilable. À Buchenwald, les Gitans portent un triangle brun. À Ravensbrück, les Gitanes portent le triangle noir des asociales. Seuls les Tziganes ont le droit de laisser leurs cheveux repousser et ne travaillent pas.
Hey, acum băieți, ia să facem și un bilou greu, mă, ca la grăjean.
Les nazis considèrent alors les Tziganes comme racialement inférieurs et s'appuient sur les préjugés sociaux de nombreux Allemands non-nazis à leur encontre. En de nombreux points, le sort des Tziganes sous le régime nazi s'apparente à celui des Juifs. Internement arbitraire, travail forcé, assassinat en masse. Ce sont des dizaines de milliers de Tziganes exterminés dans les territoires occupés par les Allemands en Union soviétique et en Serbie. Des milliers d'autres sont tués dans les camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka. Les SS et la police emprisonnent également les Tziganes dans les camps de concentration de Bergen-Belsen, de Sachsenhausen, de Buchenwald, de Dachau, de Mauthausen et de Ravensbrück. La persécution des Tziganes éclaire des phénomènes fondamentaux pour la compréhension des mécanismes du génocide. Un génocide situé à l'intersection entre les deux logiques liquidatrices qui prévalent aussi pour l'extermination des Juifs. La Rassenpolitik, la politique de la race. Elle implique non seulement de procéder à l'extermination systématique sur une base d'indexation juridico-biologique des Juifs du Grand Reich, puis de tous les Juifs d'Europe, mais aussi de favoriser une politique de sélection démographique qualitative pour la régénérescence de la communauté de sang allemand. La Raumpolitik, la politique de l'espace. Hitler ne se contente pas d'affirmer une hégémonie militaire et culturelle sur l'Europe et le monde. Il veut créer les conditions d'un regroupement autour de la Grande Allemagne et du Grand Reich, des populations déclarées authentiquement germaniques, sur des zones préalablement nettoyées de tous les éléments étrangers ou inférieurs. La Pologne, les pays baltes, la part la plus importante de l'Ukraine et de la Russie d'Europe. Mais aussi un ensemble des territoires au sud-est de l'Europe, car l'Allemagne nazie s'estime l'héritière naturelle des intérêts danubiens et orientaux de l'ancien empire d'Autriche. La dispersion européenne de la population tzigane est donc perçue comme un danger, à la fois racial et territorial, qui porte sur la question centrale du métissage. Les tziganes, comme les prétendus asociaux, sont l'objet d'une expertise biogénétique familiale systématique. Ce systématisme montre que la majeure partie des élites allemandes est intellectuellement préparée aux conséquences de la science de la séparation et que cette adhésion ne vient pas du seul ancrage national de l'antisémitisme. Elle s'inscrit dans la crainte de la décadence de l'Allemagne et de la pollution du sang germanique par le métissage qu'il convient de stopper par tous les moyens avant le déclin fatal. L'Allemagne nouvelle est bel et bien Zigeunerein, purifiée des Tziganes. Il en est de même dans le protectorat de Bohême-Moravie, en Norvège ou dans les Pays-Bas. Du fait de la double appartenance de la Pologne comme zone du Grand Reich et comme territoire occupé de l'Est, les tziganes sont aussi massacrés sur place, des familles sont brûlées vives au milieu du campement de tentes habituelles ou internées dans les ghettos. Les tziganes, parqués dans le ghetto de Varsovie, sont traités avec les transports juifs à Treblinka. Le ghetto de Lodz comprend lui aussi une petite section tzigane. En revanche, dans l'Ostland, les États baltes, la Russie blanche et l'Ukraine, ou en Serbie, massacres et déportations sont organisés par la Wehrmacht. En Croatie, les Ustachi se livrent à un internement massif des tziganes dans des camps de travail forcés et à des massacres. En Roumanie, les fascistes locaux les pourchassent. L'entrée des Allemands en 1943 est aussi fatale aux Roms slovènes réfugiés dans le nord de l'Italie. L'Italie de Mussolini procède par ailleurs, pour son propre compte, à l'internement de Zingari italiens. Eux aussi déportés aux îles Lipari avec les opposants politiques au fascisme. À la fin de l'année 1942, le camp de famille, situé à l'intérieur du camp de Birkenau, est ouvert. Cet ensemble de 32 baraques forme la section B2 du camp. Il regroupe près de 20 000 personnes à partir de février 1943. Pendant l'été 44, il arrive 2200 déportés supplémentaires, dont de nombreux enfants arrachés au foyer de l'enfance. Les hommes et les femmes ne sont pas séparés. L'internement est familial. Il n'y a pas de sélection à la rampe. Le docteur Mengele met à profit sa nomination comme médecin-chef du camp d'Auschwitz pour procéder à des expérimentations sur des enfants tziganes, marqués du cycle de matériel de guerre, dont l'atrocité est à la mesure de la perversité des stratèges de la race. Mais il faut bien comprendre que ces abominations ne sont nullement le fruit de cerveaux exaltés. Elles sont commandées par la hiérarchie universitaire la mieux établie. Tous les survivants du camp de famille sont gazés, dans la seule nuit du 2 au 3 août 1944. Le gazage de 2300 personnes peut paraître secondaire au regard du sort concomitant des 500 000 juifs hongrois. Mais sa signification profonde n'échappe pas aux témoins qui rapportent tous l'événement avec une profonde compassion, alors que les tziganes sont en général fort mal vus par les autres déportés. Il s'agit là de familles rassemblées, détruites, toutes ensemble en une seule nuit. La liquidation du camp tzigane symbolise parfaitement la spécificité irréductible du génocide nazi dans son entreprise d'éradication violente et totale de familles entières afin d'anéantir à jamais le souvenir même de leur existence. Témoignage du général André Rogery, tiré de son livre « Vivre, c'est vaincre », écrit en 1945, camp d'Auschwitz-Birkenau, de la disparition des tziganes, août 1944. Nous sommes couchés comme à l'accoutumée, quand tout à coup le bruit de camions roulant sur la route éveille notre attention. Nous percevons distinctement, maintenant, que les camions pénètrent dans le camp voisin, appelé camp des tziganes. Là, des familles entières de tziganes vivent ensemble. Et ce soir, le roulement des voitures vient de nous faire comprendre l'horreur du sort qui leur est réservé. Hommes, femmes, enfants, tous entièrement dépouillés de leurs vêtements, sont entassés dans les camions. Les cris, les vociférations nous parviennent très nettement. Les SS hurlent, les femmes ont des crises de nerfs, les enfants pleurent. Et les camions, pleins à craquer de leur butin, partent maintenant à toute vitesse vers les fours crématoires. Dans quelques instants seront consumées toutes ces vies humaines qui, aux yeux de l'Allemagne, ont commis le crime immense et impardonnable d'être tziganes. Les cris ont cessé. Je vois par la lucarne du bloc la lune qui est actuellement dans sa plénitude. Tout à coup me revient à la mémoire une phrase oubliée depuis bien longtemps que j'ai lue autrefois dans Chateaubriand. La lune prêta son pâle flambeau pour cette veillée funèbre.
À réécouter sur francemusique.fr.